Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Il n'y a peut-être pas de tigre sur la Côte-Nord, mais il y a au moins une tigresse, Lorraine Richard, députée péquiste depuis 2003, qui a annoncé ce matin qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi on vous appelle la tigresse déjà?
Bon, peut-être parce que je suis très colérique. Ça m'arrive de mettre le poing sur la table.
À l'Assemblée nationale, c'est vrai que des fois, vous êtes très énergique.
Oui, mais moi, je suis pas celle, et je serai jamais, j'espère, qui fait semblant. Quand je défends une cause, que je défends quelqu'un, je le fais avec mes tripes. Puis quand c'est une situation que je la trouve pas correcte, que je la trouve abominable, là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, puis écoutez, être appelée la tigresse, là, comment ça me surnommer ainsi, c'est Bernard Drainville.
Ah oui, OK. Alors,
Bernard Drainville a goûté à la tigresse à quelques reprises.
Sur quel sujet?
Oh, sur plusieurs sujets. Ça nous arrivait souvent, Bernard et moi, là, d'avoir des discussions.
Enflammées.
À un moment donné, il avait dit ça, il disait, t'es une vraie tigresse. Ça a resté un peu.
Pourquoi vous ne vous représentez pas en 2022?
Mais c'est déjà en 2018, disant que l'énergie était moins au rendez-vous, et je me suis posé la question, même dans mon entourage, on disait, oh, t'en as fait assez, tu devrais bien prendre soin de toi. Moi, je vis à trois endroits différents des fois, c'est pas facile.
Oui.
J'ai quand même plusieurs années, là, députée de Grand Comté. Je me disais, non, je suis pas prête, j'ai encore cette passion, j'adore ce que je fais. Donc, j'avais décidé de solliciter un nouveau mandat, mais celui-ci a été vraiment très difficile, très, très difficile.
Ben oui, avec la COVID.
Est arrivé en juillet, diagnostic de cancer.
Ah oui,
OK. Oui, qui a fait en sorte que je dis, là, non, il faut vraiment que je ferme cette partie de l'histoire de ma vie, que je ferme le livre et que j'annonce que je ne solliciterai pas de mandat à l'élection de l'automne 2022. Mm-hmm.
Bien, on vous souhaite de la santé, Lorraine. Je me demandais, vu qu'on est à l'heure des bilans, mais c'est tout un chapitre, là, c'est presque 20 ans de votre vie, quelle réalisation précise vous rend la plus fière?
Mais il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup. Et je savais que cette question-là viendrait. Puis des fois, il y en a eu, puis c'est pour des raisons différentes que j'en suis fière. Tu sais, je veux dire, d'obtenir le quartier général à Havre-Saint-Pierre, là, du Gros-Québec, qui implante son quartier général à Havre-Saint-Pierre suite au projet de la rivière Romaine, tu sais, pour certaines personnes, ça veut dire quoi, là?
Mm-hmm.
Mais c'était un dossier extrêmement important, là. C'était un dossier où j'ai eu droit à des manifestations de gens que je connaissais très, très bien, là, qui ont manifesté en 2012 sur un gouvernement du Parti québécois. Puis je leur avais dit, vous allez l'avoir, parce que déjà, Pauline Marois, première ministre du Parti québécois, avait dit, Lorraine, si on vient, même dans l'opposition, on m'avait dit, Lorraine, si on vient au pouvoir, oui, on va aller de l'avant avec le quartier général d'Hydro-Québec à Havre-Saint-Pierre. Il faut savoir que c'était Thierry Vandal à l'époque qui était PDG, puis c'était Jean Charest, premier ministre. Et
oui.
Même Clément Gignac, qui m'avait, je le souligne en passant, avait plaidé ma cause, avait plaidé la cause des Nord-Côtiers pour l'implantation du quartier général. On ne l'avait pas eu sur les libéraux, de l'avoir obtenu, ça, j'en suis fière, mais d'avoir été capable de remplir les promesses que j'avais faites aux citoyennes de toute ma région, mais surtout à une certaine élite libérale de mon coin de pays, où je leur avais dit, je vous promets que je vais obtenir l'agrandissement de Gustave Gauvreau si le PQ vient au pouvoir. Je vous promets que le centre de détention de cette île, que ça fait des décennies que vous attendez, vous allez l'avoir. Je promets qu'avoir une piscine à Havre-Saint-Pierre, ils veulent l'avoir.
Mm-hmm.
Puis l'agrandissement du théâtre Graffiti Plant. Donc, les 18 mois là, du Parti québécois, là, d'avoir emmené 300 millions dans ma région. Puis, vous le savez, à l'époque, là, on n'avait pas de surplus budgétaire au gouvernement à ce moment-là. Mais ça, j'en suis fière. Puis, j'en suis fière également parce que j'avais réussi à convaincre, mais c'était pas... J'avais pas dû plaider longtemps. Il avait compris, tu sais, quelqu'un comme Stéphane Bédard, là, qui était au Conseil du Trésor, Nicolas Marceau, qui était aux finances... La première ministre, tout d'abord, puis Sylvain Gaudreau, là, je me souviens, avec Sylvain, là, pour le complexe aquatique à Havre-Saint-Pierre, il disait, oh, Lorraine, les finances publiques. Je l'ai donné là.
Mais la Côte-Nord...
Ils n'en ont jamais. Ça, je suis fière de ça.
La Côte-Nord, Lorraine Richard, depuis 2003, depuis votre première élection, comment elle a évolué? Parce que quand je regarde le dernier bilan migratoire... Il y a beaucoup de régions qui profitent d'une espèce d'exode urbain, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour aller s'installer en région. Or, la Côte-Nord a quand même vu son bilan être réduit de 250 personnes au profit du reste du Québec. Est-ce que ça, c'est pas un signe décourageant un peu? On pensait qu'il y avait une revitalisation des régions. La Côte-Nord, touristiquement, là, on a beaucoup entendu parler dans les deux étés COVID qu'on a vécu. Donc, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas encore des gros nuages sur la Côte-Nord?
Oui, puis c'est malheureux, hein, parce que souvent, les gens qui voudraient venir s'établir chez nous, ils ne connaissent pas la Côte-Nord. Vous, on ouvre des postes. Je vous donne un exemple pour attirer des médecins. Ah, ça, ils ne la connaissent pas, ou ils ont une mauvaise perception. Pourtant, les médecins qui viennent, écoutez, il y en a beaucoup là, qui ont élevé leur famille, hein, qui ont acheté des maisons, qui sont demeurés dans notre coin de pays. Mais c'est difficile. Et ces dernières années, ça l'est tout autant. Parce que la Côte-Nord, c'est une région principalement minière. Hein?
Oui.
On regorge de ressources naturelles, entre autres en forêt, hydroélectricité, mais les minières. Et il s'est développé au cours des dernières années une mentalité de certaines minières, hein? Moins investir dans des logements, je pense à Fermont, entre autres. C'était le fly-in, fly-out.
Ça
nous a pas aidés. Il ne nous a pas aidés. Là. Mais par contre, je constate un certain changement. Moi, je le vois avec la compagnie ArcelorMittal, le nouveau PDG qui a plus à cœur d'accompagner une ville comme Fermont, de vouloir qu'Arcelor s'implique, que ce soit dans les CPE, que ce soit dans du logement. Mais ça reste très difficile encore. Puis les deux dernières années, mais il n'y a pas eu de gros projets. On vit souvent de gros projets, nous autres. Hein? Donc, ça a été, moi je disais encore récemment, hein, le premier ministre a dit souvent que le Québec est sur pause, tout est sur pause. Il n'y a pas de nouveau développement. Fait que oui, les jeunes quittent hein, pour les études, souvent ne reviennent pas. Et donc, on a aussi des personnes qui prennent leur retraite puis qui vont rejoindre leur enfant, leur petit-enfant. Donc, ça aussi, ça joue contre nous, là.
Parlons des aînés maintenant, parce que vous êtes porte-parole en ce domaine-là au Parti québécois depuis un bout de temps. Aînés, proche aidant, maintien à domicile aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que la commissaire au bien-être, Castonguay, a déposé hier comme rapport sur l'hécatombe dans les CHSLD?
Bon, écoutez, je respecte le travail de la commissaire Castonguay. Ce que j'en ai conclu, là, pour moi, personnellement, de ce que j'ai entendu, avant un changement. Bon, elle se dit, bon, si on avait eu des meilleurs protocoles, elle pense aussi qu'au niveau de certains CHSLD, de RPA, il devrait avoir plus de soins qui soient offerts. Elle dit également, ça j'étais fort contente de l'entendre, qu'il faudrait déployer plus de services pour maintenir les gens à domicile. Bon, au-delà de tout le discours et du rapport qu'elle a, puis avec de bonnes recommandations puis tout, là, je me suis dit, c'est pas ça, là. Même s'ils changeaient, là. Vous savez, des politiques, là, ils ont été faites, hein. Des rapports de politiques tablettés, puis ça donne pas grand-chose, là. Ça donne pas grand-chose quand on les met pas en application. Au-delà du rapport de la commissaire à la santé au bien-être, Mme Castonguay, du rapport de la coroner, de la protectrice du citoyen, il reste Ça, je l'ai dit ce matin, puis je le redis. Une société qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés, elle va nulle part. Il faut que les aînés deviennent la grande priorité, tout gouvernement confondu. Et moi, je veux bien là, que nos espères, puis ils ont le mérite, puis ils sont utiles, qu'on fasse des protocoles. Tout. Moi, vous savez, je suis infirmière auxiliaire de formation. J'ai travaillé dans un petit centre de santé au Québec, à Saint-Pierre.
Oui.
Je peux vous dire que j'y retourne. On est bien soignés. Oui, mais c'est plus du tout comme c'était auparavant, là. Ce n'est plus du tout la même médecine. Dans la formation des
médecins,
dans la formation des infirmières et tout ça, on a été beaucoup vers des infirmières bachelières. Et souvent, moi, je les ai vus, là, ces gens-là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils s'en allaient dans les bureaux, là. On n'avait pas pour soigner les malades, là.
Ah oui.
Les infirmières cliniciennes, là, de plus en plus. Il faut être capable d'en former. Mais je suis demeurée quand même, je vous dirais, bien honnêtement, sur mon appétit. Tous ces rapports-là, on propose plein de choses pour changer les choses. Pour changer les choses, là, mais il faut comprendre où est-ce qu'il y a eu un problème. Et je m'excuse sincèrement, mais dans tout ce qui s'est passé dans l'hécatombe, qui s'est passé dans certains CHSLD avec des milliers de décès, là, on connaît pas tous les... On sait que c'est mort du COVID. Beaucoup sont pas tous morts du COVID. Il y en a qui... malnutrition, laissés à eux-mêmes.
Ouais.
Il faut vraiment s'attarder à la cause. Il faut la comprendre pour être capable de la changer. Puis il faut aller aussi au fond des choses.
Mais est-ce que c'est pas ça que toutes les études, les enquêtes qu'on fait vont nous amener à comprendre? Parce que là, on a des propositions de Mme Castonguay. On va voir celle de la coroner qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu celle de la protectrice du citoyen. Il me semble qu'avec tout ça, on a pas mal ce qu'il faut. Parce que là, une autre commission d'enquête générale, est-ce que ça ne va pas, encore une fois, enrichir bien les avocats? Puis les commissions d'enquête, on le sait, c'est plus la même chose maintenant. Et dans les années 70, Clich et compagnie, eux autres pouvaient émettre des blâmes, puis tout ça, là. Mme Charbonneau n'a même pas émis de blâmes. En tout cas, les dernières commissions ont tourné à l'eau de vaisselle un peu. Est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, dans le fond, pour... faire ce qu'une commission d'enquête, finalement, nous amènera à faire avec, quoi, 70 millions plus tard?
Bon, peut-être pas 70 millions plus tard, là. Ça dépend du mandat qu'on y donne.
Bien, Charbonneau a coûté 40 millions, là. J'imagine que pour les deux ans de COVID, si on enquête sur tout, absolument tout, on finira plus.
Ça, je veux bien, mais c'est quand même pas, là, c'est quand même pas anodin puis minime ce qui s'est passé au Québec, là. Bon, moi, je veux bien, là, quand... Je respecte les différentes enquêtes. C'est des personnes, écoutez, que je tiens en haute estime, là, la protectrice du citoyen. J'ai discuté avec elle personnellement. Bon, ils mettent le doigt sur des faits, sur des choses qu'ils veulent changer. OK? Moi, quand j'ai écouté Mme Mécan, là, OK? Ministre de la Santé, là, cette ministre de la Santé, dit, il y avait... il y a eu une note... Je pense que vos collègues journalistes, il y a quelqu'un qui l'a lu. Hein? Non, il a dit, moi, je comprends.
Ah oui, je l'ai lu, cette lettre-là, du 23 janvier, je pense, oui.
Voilà, il y a 2020. Dit, je comprends rien à ça. C'est souvent ça là, qui se passe, là. Hein? Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés. Des fois, c'est fait très, très, de façon très technique, très bureaucratique. Dans le sujet qui nous préoccupe, puis qui a interpellé tous les Québécois, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Début de la pandémie, la première vague. Pourquoi là? Pourquoi? Est-ce qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts? Moi, je ne veux pas accuser personne. Loin de moi, cette idée-là, là, je veux bien qu'on se comprenne. Mais il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement. Hein? C'est ça s'appelle d'avoir des responsabilités ministérielles. Puis ça s'appelle aussi quand t'es PDG d'un CIUS.
Mais Mme Richard, quand même, est-ce qu'on n'aurait pas un autre...
Non, mais c'est ça.
Mais on aurait un autre témoignage de François Legault qui nous dirait encore que on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières ou préposées, mais on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans des CHSLD que d'avoir des résidents qui ne recevaient pas du tout de service. Je le cite au texte, là. Mais il me semble que c'est ça, c'est là la cause du problème, on le sait déjà.
Et là, je vous emmène, vous allez me comprendre, là. Vous avez parlé beaucoup, pourquoi une enquête publique indépendante qui va coûter des millions?
Oui.
Ça va peut-être coûter des millions, là. jusqu'à présent, là, ultimement, ils revenaient au gouvernement, ils ont eu des signaux. Mm-hmm. De déployer. On le voit, on l'a vu, là. Même la coroner, elle s'est fâchée. Là. Elle s'est fâchée, là, puis elle a dit, là, quelque chose ne marche pas. Elle dit, moi, j'avais avisé. On a des personnes là, responsables de CHSLD privés qui ont dit, on a demandé de l'aide. Là, oh, la ministre ne savait pas, là, le PM, il sait. Puis je crois sincèrement, parce que je pense sincèrement que si le premier ministre François Legault avait su réellement ce qui se passait dans les CHSLD, il serait intervenu.
OK.
Quelqu'un qui n'a pas fait son travail. S'il se reproduit une autre crise de ce genre, hein, okay. Parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise,
ouais.
Combien même vous auriez les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques?
Mm-hmm.
Ça ne fera pas en sorte que dans une crise, dans une gestion de crise où on gère là, hein, à vitesse grand V, là, que ouais. Ça ne se reproduira pas. Parce que souvent, c'est rendu très, très... la santé, là, c'est un très, très gros ministère. Hein?
Mm-hmm.
Je m'excuse, là. Il est rendu, là, très, très gros. Hein?
Mm-hmm.
Le système de santé, il est à terre. Oui, la COVID, il y est pour beaucoup, je m'excuse, là. Il était à terre pas mal avant. Ouais. Pas mal avant. On a une hiérarchie épouvantable dans ça, là. Moi, je le constate dans ma région. Hein? Moi, là, pour un petit CHSLD, là, j'ai parlé, là, puis c'est pas le plus beau, c'est le plus gros 6 là, au Québec. Là. J'ai parlé à 7 personnes pour savoir si des personnes âgées pouvaient sortir ou pas, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Fait que moi, je transpose ça là, dans les grands centres. Là. Il y a une hiérarchie, c'est très gros, c'est très bureaucratisé. Et lorsque toutes ces enquêtes-là, ils mettent le doigt dessus, là. Pas une note, les protocoles ont mal été observés. Il aurait dû, bon, voici. Par contre, t'as des gens qui disent, ouais, mais là, on se fiait que, ah, ils connaissaient ça aux autres, la désinfection. Puis là, on pensait qu'il y avait assez de blouses, puis qu'il y avait assez de masques suffisantes. Combien vous auriez les meilleurs protocoles, là, s'il n'y en a pas de masques suffisants, là, puis que ça en prend, là, puis parce qu'il faut qu'il check un avion, là, pour aller chercher, là, ailleurs, à l'extérieur du Québec. Qui pensez-vous qui va le faire?
Ben oui.
Ben voilà. Fait que moi, Lorraine... Il y a des informations
qui circulent pas, oui.
Qui n'ont pas été rendues à la cellule de crise. Parce que je me dis, si toute la bonne information avait été vraiment très bien rendue, les gens de la cellule de crise en avaient pris connaissance, ils auraient agi, là.
Lorraine, là, je vois le temps filer. Je veux pas vous laisser sans vous poser une dernière question un peu dure. Est-ce que le Parti québécois va survivre aux prochaines élections?
Écoutez, moi, je le dis sincèrement, Antoine, là. Le Parti québécois, c'est un grand parti, puis il a fait beaucoup pour le Québec. Puis je dis, au-delà des hommes, des femmes qui vont passer, il va en avoir d'autres qui vont s'investir au Parti québécois, il demeure un grand parti. L'option de la souveraineté ne mourra jamais. Quelle forme ça prendra? Comment? Quelle sorte de véhicule? Je ne le sais pas. Ce que je trouve...
Donc, vous n'êtes pas sûr qu'il survive, c'est ça?
Oui, il va survivre. De quelle façon, je ne sais pas, mais il va survivre. Et je trouve malheureux, très malheureux, qu'on ait décidé de délaisser ainsi le Parti québécois. Regardez-nous attentivement la petite équipe que nous sommes, les propositions qu'on fait. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Il y a des hommes et des femmes qui y croient, comme moi. Puis, non, moi, je dis, ça peut changer, écoutez, mais... Il va rester quelque chose parce qu'il y a cette âme-là au Parti québécois qui est toujours vivante, cette flamme-là que j'espère ne s'éteindra jamais, mais ça peut prendre d'autres formes, on ne sait pas. Il y a une nouvelle génération hein, qui arrive, comme on dit, la politique n'est pas ce qu'elle était auparavant.
Bien.
Je ne pense pas qu'on pourra dire le Parti québécois est vraiment mort, la souveraineté est vraiment morte. Je ne pense pas que ça va arriver. Sincèrement.
Merci beaucoup pour cet entretien, Lorraine Richard. On vous souhaite de la santé puis du repos.
Merci beaucoup, M. Robitaille.
Au revoir. De toute façon, on se voit d'ici, d'ici l'automne.
Oui,
au revoir. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain.